m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache. Oui. Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Amis de la table, bonjour et ravi de vous retrouver. Comme tous les samedis, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Merci d'ailleurs pour vos nombreux messages concernant notre émission la semaine dernière en Normandie à la ferme de la Mondière. Et encore merci à Lison pour son bel accueil. Alors nous voilà ici au studio Coluche à Paris. On ira faire un petit tour en Bretagne quand même tout à l'heure pour s'intéresser à une spécialité laitière bretonne, c'est le gouel. On va aussi aller faire un tour en terrasse, vous pensez bien, pour célébrer ce retour à la vie en attendant la réouverture totale le 9 juin. Et on se posera plusieurs questions. Dans quel état d'esprit sont nos restaurateurs? Quelles sont les nouvelles adresses? On fera le point avec Emmanuel Rubin, qui est le critique gastronomique du Figaro. Et voici mes bons vivants du jour. Entre sa Bourgogne et la capitale, il a déjà vérifié le niveau de la cave de ses restaurants préférés. Olivier Poulx est des nôtres. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour les amis. Bonjour Yves, que je suis ravi de retrouver en veste de cuisinier. J'avais pas vu ça depuis longtemps.
Vous avez vu comme il est beau, comme il est heureux, il est souriant.
Il a mal aux jambes, je vous le dis.
Et oui, il a des courbatures, ouais, c'est comme un sport qu'on a oublié de faire pendant un moment. Il est content de refaire son métier, il a ouvert les bras à ses clients sans relâcher les gestes barrières. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on retrouve ce sourire naturel, cette envie de partager. Et c'est un réel bonheur.
Quel est le record à votre terrasse mercredi de durée à table?
Oh, ça a commencé, les premiers sont arrivés à 11h30 et la même table est restée jusqu'à 21h.
Eh ben, c'est pas beau, c'est pas une belle déclaration d'amour à nos restaurateurs, ça. Et vers midi moins le quart, l'épicurieux Jamy Gourmaud viendra partager avec nous le plat du jour, un poulpe à la crème de Piquillos. À table les amis. Question rituelle, posez-vous là à la maison ou en écoutant le podcast, dans la voiture ou ailleurs. Quel est votre goût de la semaine? Je me tourne vers vous, Yves Candebord.
Moi, mon goût de la semaine, c'est mes clients. C'est mes clients, je pense que je ne les remercierai jamais assez de cette gentillesse, ce soutien que nous avons, ces rires, ces merci que nous entendons. C'est vraiment quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes parce qu'ils sont là, ils nous le prouvent, ils nous le montrent. Alors certes, on essaie de les gâter toute l'année, mais là je les remercie parce que c'est eux qui nous ont gâtés.
Un beau lien de fidélité. Et votre goût de la semaine, Olivier?
Alors le plat d'un très grand chef, en l'occurrence moi-même, mais vous en toute modestie.
Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Non, c'est une espèce de fulgurance. J'ai une passion pour le vite et l'automato. J'adore ce plat.
C'est vrai.
Il se trouve que j'avais pas de veau et j'ai remplacé le veau par de la betterave que j'avais cuite au four. Et donc, j'ai fait des fines tranches de betterave. Et par-dessus, j'ai versé une sauce de vitello tonnato, donc une mayonnaise montée avec un petit peu d'anchois, avec du thon, avec du citron, etc. Et bien, franchement, j'étais assez content de moi.
Vous avez remplacé le veau par de la betterave,
ouais.
Hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Et c'est donc, c'est végétarien?
Ah non, il y a un peu de thon voilà. Et un peu d'anchois quand même dans la sauce. Mais il n'y a pas de viande.
Oui, mais voilà, mais les végétariens, certains font des petites entorses en mangeant du poisson de temps en temps. Voilà.
Quand c'est bon, il faut se le permettre.
Et on n'oublie pas les capres aussi, pour apporter
l'acidité. Ouais, ça c'est bon ça. Eh bien, mon goût de la semaine, c'est mon premier café en terrasse dans mon quartier, tout simplement.
Un double?
Non, un simple expresso, bien serré, justement, bien serré, avec la belle tartine à côté, coupée à la parisienne, vous savez. La tartine, elle n'est pas coupée pareil parfois dans les bistrots parisiens, elle est coupée dans l'épaisseur,
oui.
Avec du beurre et puis une belle confiture de fraises, là. Bah voilà, on était contents d'être en terrasse.
Et un serveur sympa?
Alors, pas forcément, mais, on était bien à Paris, voilà, justement.
Donc ça parisien.
Serveur parisien, mais voilà, mais je lui dis, mais vous savez qu'on est content de vous voir? Oui, bah nous aussi, on est content. Bah voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver cette vie avec ces belles terrasses. Alors, on vous le dit, depuis mercredi, les terrasses sont rouvertes dans tout le pays. Alors, même si plus de la moitié des restaurants n'a pas de terrasse, et malgré la météo, faut bien le dire, qu'on assiste à ce beau retour à la vie, eh bien, à Nice, c'est la même chose. Frédéric Michel vous a demandé le premier plat, que vous aviez envie de retrouver en terrasse.
Quelque chose de bien niçois, de la porchetta, des saladières, de la daube, tout quoi, tout ce qui est niçois.
On est breton, boule frite.
Une belle sole au beurre, avec une petite purée, un restaurant dans le Vieux-Nice qui fait ça merveilleusement bien, et je crois que je vais me régaler.
Menu espadon ce midi, espadon grillé, sauce vierge et riz basmati. Classique de la cuisine, mais valeur sûre.
Moi je découvre Nice, donc j'aimerais bien découvrir une spécialité niçoise, la soca par exemple.
Aujourd'hui il fait chaud à Nice, donc j'irai plus pour une salade César.
du poulpe grillé que j'ai déjà repéré sur la carte d'un restaurant où je vais ce soir. Ouais, on a réservé pour 6. On a hâte. En fait, je pense que c'est pas tant le fait de se faire servir, plutôt de se retrouver voilà, en terrasse et de partager un moment ensemble qui est agréable.
Deux formules, s'il vous plaît.
Le goût des retrouvailles.
Je ne sais pas si vous avez remarqué le sourire qu'il y a dans la voix tous les gens qui viennent de parler. C'est incroyable, on les entend sourire.
Ah, il y a même besoin, je pense qu'il y a une vraie jouissance de retrouver ces choses simples en fin de compte. Mais c'est vrai que c'est tellement important.
Je voudrais qu'on ait un mot quand même pour tous les restaurants qui ne sont pas encore rouverts justement. Hein, parce que le 9 juin, c'est la date officielle pour la réouverture des salles. Il y a quand même 60% de restaurants en France qui n'ont pas de terrasse. Donc on pense à eux justement. Il y a les aides toujours qui sont là pour les soutenir. Mais voilà, ils ont envie aussi de goûter à ce retour à la vie. Et ce sera le 9 juin.
Alors, et on y sera aussi.
Et on y sera aussi, vous pensez bien. C'est vrai que tous les restaurants ne sortent pas égaux de cette crise. On en parlera dans un instant avec Emmanuel Rubin, qui est le critique gastronomique du Figaro. On fera un petit état des lieux, mais avant, on va déguster du gouel, une spécialité bretonne. Et je peux vous dire que c'est bon, ça. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
La semaine dernière, nous étions en direct de la ferme de la Mondière en Normandie. Alors, on est tous revenus avec du Livaro, de la crème crue, du Pont-l'Évêque. Vous retrouverez d'ailleurs ces jolis moments en écoutant le podcast sur Europe 1. Et ce matin, on continue à s'intéresser, à soutenir la filière laitière. Comment transformer, tiens, le lait sans en faire tout un fromage? Eh bien, direction la Bretagne pour parler du lait fermenté. C'est une vraie spécialité bretonne, mais on en trouve aussi ailleurs, Olivier.
Oui, hein. Pas que bretonne. Il y a un petit débat sur la manière de le prononcer au Maghreb. C'est le labné ou le lébène. On en discutait tout à l'heure avec Lucille. On ne savait pas comment le prononcer.
Labane aussi.
Ou labane. Suivant les pays, je pense qu'il y a différentes prononciations. C'est un lait épais, acidulé. Et d'ailleurs, ce verre de lait fermenté est régulièrement consommé avec le couscous, figurez-vous. Tiens.
Et puis oui, on l'utilise aussi pour rompre le jeûne du ramadan,
absolument.
Je crois. Hein, c'est ça.
Absolument.
Mais en Mongolie aussi,
ouais,
Yves.
En Mongolie, avec le lait de jument fermenté qu'on donne aux enfants très jeunes.
Très bon, le lait de jument.
C'est très bon. Et c'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel humain. Et c'est un lait, c'est vrai, qui a beaucoup de puissance, beaucoup de goût, mais c'est vrai que les touristes en général bloquent. Mais je peux vous assurer,
j'ai jamais goûté
les petits
de lait de jument.
C'est très très bon et c'est vrai.
Vous avez goûté ?
Il y a bon nombre d'enfants justement qui ont des problèmes avec une allergie avec le lait de vache qui sont nourris au lait de jument.
Mais oui, dans et certaines familles, bon on donne encore du lait de jument aux enfants. Absolument. Alors pourquoi on a recours à la fermentation ? C'est la conservation déjà, Olivier.
Oui, c'est pas au départ une question de goût, c'est l'idée, la problématique de conserver ces produits, de conserver le lait. Et donc l'idée de le faire fermenter, ce qui lui donne ce goût particulier d'ailleurs, est avant tout dans tous ces pays, la Turquie, la Mongolie, l'Inde, le Moyen-Orient ou même dans certaines parties d'Asie, c'est l'idée de pouvoir le conserver.
Alors question de goût aussi, parce que c'est vrai que le lait fermenté, hein, on va se dire les choses, il fait aussi partie de la culture bretonne et il a du caractère comme les Bretons.
Il a du caractère comme les Bretons et j'ai la chance d'avoir ma maman, moi, qui est à côté de Saint-Andoré, debout dans le Morbihan, et je peux vous assurer qu'on partait en vacances, on n'attendait qu'une chose, c'est arriver dans le petit village et ma grand-mère nous appelait ce qu'elle faisait le choulat.
C'est quoi?
Alors,
ça
chouette, mais c'était le lait fermenté, le fameux lait ribot.
Le lait ribot, oui.
Avec des morceaux de pain sec et un peu de miel. Et ça avait ce côté très acidulé, voire un peu aigrelé.
Oui, ça pique un peu.
Ça presque. Piquait un peu. Et c'était un plaisir de gamin. Le goût m'est resté. Et aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus aussi en cuisine ou en pâtisserie.
Et on en trouve un peu partout chez les fromagers et même en grande surface du lait ribot. Alors, je vais vous parler maintenant d'un cousin du lait ribot. C'est le gouel, c'est une recette fermière très répandue en Bretagne aussi, c'est ce qu'on appelle le gros lait. Et figurez-vous que dans la famille des défenseurs du terroir, eh bien, il y a Gurvan Bourvelec en Bretagne, à la ferme fromagère de Sucignaux, c'est à Sarzeau, sur la presqu'île de Ruisse. J'ai eu la chance d'y aller, c'est magnifique. Il est éleveur de vaches bretonnes pinoires, il fabrique son gouel matin et soir, et il nous explique la méthode au micro de Julien Amat.
Le gouel se transmet de ferme en ferme. Quand notre ferment est mort, on est obligé d'aller voir un copain fromager qui nous redonne le ferment, et ce qui nous permet de refaire du gouel. On prépare le ferment, on le fouette légèrement pour le liquéfier un petit peu, pour qu'on puisse le mettre dans le lait. Le gouel, c'est comme un levain de boulanger, c'est le même principe. On est sur des ferments qu'on entretient. Il faut faire attention à comment on les manipule, comment on les traite. L'origine du gouel vient principalement du Finistère. Moi, je suis du Morbihan, natif du Morbihan. Ce n'était pas du tout connu dans le Morbihan. Nous sommes en création d'un cahier des charges pour en faire une AOP. On brasse bien le lait pour mélanger le ferment. Vous êtes devant une jolie couleur jaune avec une légère mousse sur le dessus. Là, on va le laisser au moins 6 heures en étuve. pour que le ferment travaille. Et toutes les petites bêtes vont travailler ensemble. On va ouvrir le pot du goël pour le déguster. On est 6 heures après, on sort de l'étuve. On voit les petits bouts de crème, le côté qui se déchire un petit peu. C'est un produit très très onctueux et très doux par contre, et un petit peu filant. Très crémeux en bouche.
Eh bien voilà, il en parle bien, Gurvan Bourvelec, sur la presqu'île de Ruisse, dans sa jolie ferme, avec des vaches de race pinoire qui donnent ce lait. Alors, c'est pas un lait, le goël, ça ressemble, on va dire, presque à un fromage blanc, c'est assez épais.
C'est épais en termes de texture, et ça peut par exemple se déposer en ce moment sur des fraises, c'est absolument magnifique.
C'est une marque d'agriculteurs aujourd'hui, ça y est, ils se mobilisent les agriculteurs pour défendre le goël.
Et comme il le disait, avec le projet d'en faire un jour une appellation d'origine protégée, on leur souhaite d'ailleurs.
Mais exactement, et on en parlait avec Morgane Large, cette journaliste bretonne très engagée justement pour préserver une agriculture à taille humaine et paysanne sur les terres bretonnes, eh bien le goël répond complètement à ses objectifs.
Et j'adore cette idée du ferment, qu'on se passe de ferme en ferme, cette transmission, parce que le ferment ça vit et donc ça meurt, et donc il faut que toujours quelqu'un puisse en avoir pour le donner.
C'est exactement comme le levain du pain. Et après c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces produits de goël ou le lait ribot en pâtisserie, mais c'est très très intéressant aussi en salé. Et quand vous avez une recette à base de lait, remplacez le lait ou la crème par le goël ou par le lait ribot, et vous avez une sauce qui est toujours très acidulée, mais légèrement aigrelette. D'ailleurs, on a un grand cuisinier, Christian Lesquer, chef breton, au Palace de Georges V, qui a un de ses plats références, c'est le bar au lait ribot.
Exactement.
Et je l'ai goûté. C'est vrai que c'est d'un équilibre, d'une subtilité très intéressante.
Oui, c'est très intéressant. Voilà, du goël, si vous en trouvez chez votre fromager, ça vaut le coup d'essayer. Dans les pancakes, c'est un conseil de Lucie Lescourou, notre rédactrice en chef aussi, ça apporte du moelleux. Est-ce que ça remplace complètement le lait ou vous le coupez, chère Lucille, avec du lait? Avec du lait, eh bien voilà. Alors on vous le disait, les terrasses sont ouvertes, mais les musées aussi. On vous emmène au musée du Louvre, à Lens, dans un instant. Il y a une belle expo sur les tables du pouvoir. On va se balader et on va apprendre plein de choses. Tiens, à propos, vous savez de quand date la fourchette? On vous donne la réponse juste après.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Les terrasses sont rouvertes, on fait un premier bilan dans un instant, mais avant un petit peu de culture, tiens, parce que les cinémas, les théâtres et les musées aussi sont de retour et ça fait du bien. Donc au menu, nourriture terrestre et spirituelle, avec une belle exposition au musée du Louvre-Lens. Vous le connaissez ce musée, Yves, Olivier ?
Oh non, j'ai pas eu la chance d'y aller, je le connais pas.
Eh ben on va y aller grâce à Julien Amat qui travaille avec nous et qui est allé. Il y a une belle expo en ce moment, ça s'appelle « Les tables des pouvoirs ». Le parcours retrace 5000 ans d'histoire de repas pas de prestige, ça va de la Mésopotamie jusqu'à l'Élysée, c'est vous dire. Et c'est vrai qu'en 5 millénaires, eh bien, nos pharaons, nos rois, nos empereurs et nos présidents ont changé leur façon de se tenir à table et leur façon de croiser les couverts aussi. Alors Julien Amat a réservé pour vous le premier créneau de visite guidée avec Hélène Bouillon, qui est la commissaire de l'expo. Suivez le guide.
Alors ici, on est dans une exposition sur les arts de la table. 5000 ans d'histoire d'art de la table. Mais c'est vraiment la table des puissants. Une grande partie de nos manières de table viennent d'en haut. Cette exposition montre depuis les tout débuts de l'État, les tout débuts des royaumes et des cités-États en Mésopotamie et en Égypte, comment s'est organisé le protocole, comment un certain nombre de ces règles ont perduré jusqu'à nos jours, jusqu'à la table élyséenne. On va un petit peu se balader. Alors là, on est devant un objet extrêmement particulier. C'est une cuillère fourchette pliante, une sorte de couteau suisse en fait. On déclipse la partie cuillère. Donc sous la partie cuillère, on a la partie fourchette. On se retrouve avec une fourchette à deux dents. D'ailleurs, savez-vous, Laurent, Olivier et Yves, de quand date l'utilisation de la fourchette ?
Alors moi je pense que l'utilisation de la fourchette en France, c'est Catherine de Médicis à la Renaissance qui l'a
Oui, j'irai à la Renaissance aussi.
Moi, j'aurais dit pareil, oui, moi aussi. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses, ouais. Catherine. Catoche, qu'on appelait comme ça aussi à l'époque.
Oh, c'est une copine
les intimes,
c'est,
les intimes. C'était les intimes,
une copine à vous.
Catoche, la reine de la fourchette, on va voir.
On a des cas dans l'Antiquité d'utilisation de piques pour piquer la viande. Mais la fourchette telle que nous la connaissons, d'abord à deux fourches, et puis ensuite à trois, et puis ensuite à quatre. Elle date vraiment de la Renaissance. Et l'usage s'en est répandu à partir du XVIIe siècle, donc, dont la date de... cette fourchette.
Eh ben merci Hélène et bravo messieurs, bravo. La fourchette date de la Renaissance. Alors on continue l'expo tiens, et on avance dans le temps. Après la Renaissance, à quoi ressemblent les tables des rois du XVIIe et du XVIIIe siècle? Secret d'histoire, on y va.
On va voir ensemble une des tables dressées de l'exposition. C'est une table du XVIIIe siècle. Un service à dessert, dressé pour 6 personnes. 6 personnes à table, hein, pas plus. Hein. Donc, on retrouve les fourchettes, des couverts en vermeil, c'est-à-dire en argent plaqué or. Et ça, ça se retrouve très souvent, même sur les tables élyséennes. Pour manger le dessert, on mange avec des couverts en vermeil. D'ailleurs, les bons vivants, savez-vous pourquoi on dit dresser une table?
Ah, bonne question. Yves Candebord, on se tourne vers vous, le chef bistronome.
Non, dresser une table, pourquoi on dirait dresser une table? C'est parce qu'il faut mettre de l'ordre, peut-être. Voilà, le fait de positionner les différents ustensiles qu'on a besoin pour manger, on met de l'ordre, donc on les dresse.
Ou peut-être que les tables étaient pliantes au départ et
pas
qu'il
mieux.
Fallait les... Hein,
ouais, je sais pas. Là, franchement, je ne sais pas.
Hélène, donnez-nous votre réponse, s'il vous plaît, on est perdu.
Eh bien, en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, avec la création pour Louis XV d'une véritable salle à manger, une salle dans laquelle la première fonction, c'est de manger, avant, on peut manger n'importe où. Pour Louis XIV, par exemple, on va lui faire prendre son repas dans sa chambre. On met des tréteaux, on dresse des planches, on met une nappe. Tréteaux, planches, ça fait penser à du théâtre. Le spectacle se passe aussi sur la table. Et voilà, la table est dressée.
Ah ben voilà, c'était ça, oui.
C'est le côté... c'était un peu mettre de l'ordre quand même.
Oui, c'était un petit peu déplié aussi, je m'en rapprochais le plus.
Un demi-point, Yves.
Ben voilà, merci Hélène Bouillon pour cette jolie visite au musée du Louvre-Lens. Et l'expo a lieu, la table des pouvoirs, jusqu'au 26 juillet. Allez, on continue de bien se tenir à table ce samedi. On partagera un plat du jour dans un instant avec l'épicurieux Jamy Gourmaud. Mais avant, on va faire un premier bilan de la réouverture des terrasses et on va vous indiquer aussi de nouvelles adresses partout en France avec le critique gastronomique Emmanuel Rubin. Il officie au Figaro et vous devez connaître sa plume. A tout de suite. Allez, installons-nous en terrasse. Allez, on imagine. Il fait doux sur la France. Les passants sont heureux. Au fond du café, une radio chante. Mais oui, c'est Europe 1. C'est la table des bons vivants. Et Charles Aznavour, la salle et la terrasse, écoutez.
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse et je suis aimé des clients. Moi, faire la salle et la terrasse, j'aurais salement fait la grimace. Tu m'aurais dit ça y a 10 ans, quand Marie-Louise me plaisait tant. Elle allait encore à l'école et je lui collais des auréoles quand je la voyais passer de loin. Mais le petit ange a fait ses foins. Maintenant qu'elle règne sur la place, moi je fais la salle et la terrasse et je n'irai jamais plus loin. Que voulez-vous donc que j'y fasse? On devient bête et le temps passe. Marie-Louise a 45 ans et son cocu bien gentiment vient de la faire propriétaire en allant dormir dans la terre. On ne peut guère dormir plus loin. Moi j'ai pris tellement d'embonpoint et j'ai fait tellement de grimaces. Entre la salle et la terrasse, je suis un con, ni plus ni moins. Je fais la salle et la terrasse chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse. Je suis aimé des clients, un petit blanc. Oui, monsieur, ça vient. Oui, oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon beurre en terrasse. 2 crèmes à la une. Et 2.
Ah, c'est beau ça, la voix
très, très beau.
Et les paroles de Charles Aznavour sur Europe 1. On y était, cette ambiance si particulière. de nos cafés, de nos bistrots et de nos restaurants français. L'acte 1 du retour à la vie donc, a eu lieu ce mercredi avec la réouverture des terrasses. En attendant l'acte 2, hein, je le disais, avec la réouverture totale des salles le 9 juin. On fait un premier bilan tiens, avec Emmanuel Rubin, le critique gastronomique du Figaro depuis 30 ans cette année, dites donc. Bonjour Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi d'être là.
Mais partagé et joyeux anniversaire donc.
Oui, oui, oui.
Ah, joyeux anniversaire.
J'ai découvert ça durant le confinement, on m'a dit que j'avais 30 ans.
Alors,
de Figaro.
Votre première terrasse, vous l'avez faite j'imagine, ce mercredi?
Eh bien je vais être très honnête, oui j'en ai fait une, mais c'est vraiment la terrasse de mon café d'en bas quoi.
Ouais.
Je suis un pur parisien, hein. Donc à chaque fois que je déménage, j'adopte un café. Et donc là, comme je suis dans le deuxième, allée de la pub, le café du centre, à l'angle de la rue Mandar et de la rue Montorgueil.
Ce qu'on vient de comprendre avec cette crise, Emmanuel Rubin, on en a parlé ici plusieurs fois, c'est que les restaurants, les cafés, c'est aussi de la culture. Ça fait partie de notre identité, mais complètement.
Ah, complètement. Et je pense que c'est au moins le mérite de cette crise, c'est d'avoir rappelé ce qu'on croit être une évidence. Mais en vérité, pour beaucoup de personnes, où on avait peut-être oublié, que le restaurant, je ne dis pas que c'est un des beaux-arts, hein. Moi je suis un peu comme Gainsbourg, hein. Je crois qu'il y a des arts majeurs, des arts mineurs. En revanche, je sais que le restaurant, c'est éminemment une culture. Et le jour, lors du premier confinement, où on a vu une ville comme Paris, mais pas simplement, rideau baissé, là, on a vu que ce n'était pas simplement une histoire d'assiette. Que bien sûr, la cuisine, elle est capitale dans un restaurant, mais que quelque part, c'est beaucoup plus que ça. Alors, quand je le dis là, et après un an de Covid, tout le monde dit « Ah oui, c'est évident ». Je peux vous dire que ce n'était pas quelque chose de si évident. Avant cela, et moi je le vois même dans mon propre milieu de critique gastronomique, souvent dans les critiques, et la plupart de mes confrères ont beaucoup de talent, mais souvent quand je lis une critique, je lis une assiette, c'est-à-dire j'ai l'impression que les critiques ont la nuque baissée sur l'assiette. Ils parlent très peu du décor, de l'ambiance, du public, du quartier,
salle,
et parfois
oui.
Je lis même des critiques, je dis mais à la fin tu fermes les yeux, tu dis au fait on était où les gars? Si tu as envie de faire de la critique culinaire et faire de la fiche recette, c'est très bien. Si tu fais la critique d'un restaurant, raconte-moi un restaurant.
Alors justement, attention, tous les restaurants ne sont pas encore rouverts.
Hein,
les salles, c'est le 9 juin. Ils sont dans quel état d'esprit, nos restaurateurs, nos cuisiniers, vous qui les côtoyez au quotidien?
C'est ambivalent. C'est-à-dire qu'ils sont ravis pour la plupart de rouvrir, de recoller à l'énergie, au métier, à ce qu'ils aiment. C'est quand même un métier, vous savez, de passion et de vocation. Tu ne tiens pas très longtemps si ce n'est pas chevillé au corps. Dans le même temps, ils ont été un peu groggy physiquement. C'est-à-dire que je dis souvent qu'aussi bien en cuisine qu'en salle, c'est un métier de sportif. C'est très physique, la cuisine. Quand tu t'entraînes pas, entre guillemets, pendant 7-8 mois, quand tu reprends comme ça du jour au lendemain, il y a de la casse.
Mais il a des courbatures, Yves Condebord.
Ah, mais il parle pas.
Non, mais moi je comprends complètement ça. C'est comme faire du vélo. Quand vous faites beaucoup de vélo, que vous arrêtez le vélo pendant 6 mois, avant de remonter le Tourmalet, je peux vous dire qu'il faut d'abord pédaler. Hein. C'est très difficile de la reprise.
Et c'est ça que ça raconte d'ailleurs cette crise. C'est qu'on voit un peu la réalité de ce métier. Vous savez, c'est très bien Top Chef, mais c'est un peu une émission fantasmée. Là, on voit que c'est un métier que c'est dur, c'est physique. Et puis, il y en a beaucoup qui, mentalement, sont passés à autre chose parce que pour leur première fois de leur vie, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils ont vécu une vie qui est une vie entre guillemets normale, de famille, avec des soirées, des week-ends, des vacances. Moi, je suis fils de restaurateur, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce métier, même si ça a un peu changé. Là, pour la première fois, ils ont vécu ça et il y en a qui ont décidé de faire autre chose.
Et vous l'avez dit, il y a de la casse aussi.
Je vois dans mon quartier, nous sommes en plein cœur de Montorgueil, je me suis amusé à faire tous les restaurants sur les 200 mètres de rayon autour de ce quartier-là, de l'épicentre Montorgueil. Sur une 80 restaurants, il y en a plein dans ce quartier-là. Je compte les cafés, les brasseries. Ouais. J'en ai compté au moins une vingtaine qui ont déjà fermé. Donc voilà. Ça ferait 20%. Donc je pense qu'il y en a plein qui ont fermé. Surtout, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Il y a eu des aides de l'État, certes, mais il y a surtout un prêt qui a été consenti. Et pour la plupart, moi, les chefs et les restaurateurs me disent, ce prêt, maintenant, va falloir le rembourser. Et pour beaucoup, ils se disent que pour le rembourser, il faudra qu'ils fassent le double de chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant le Covid. Alors c'est peut-être caricatural, mais il va bien falloir payer et rembourser ce prêt. Et ça va vraiment abîmer les choses.
Moi, je l'entends certes, mais alors moi je vais défendre un peu quand même mon métier, surtout le métier qui est fait par des restaurateurs, que ce soit des cuisiniers ou des chefs de salle. C'est un métier où n'importe qui fait n'importe quoi sans aucune autorisation.
Ah, ça c'est vrai que n'importe qui peut ouvrir un restaurant.
20%, dans les 20% qui ont fermé, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà en difficulté avant le Covid?
Sûrement.
Et est-ce que quelque part, ça va pas, alors je vais être très dur, ça va pas un peu nettoyer aussi notre métier, et quelque part par rapport pour les clients, ce sera que du mieux de retrouver des établissements.
Ça va professionnaliser le métier peut-être, c'est ça que vous dites.
On est d'accord, je pense que c'est un équilibre des deux. Il y aura ça, voilà. Et ça c'est tant mieux, moi je le dis tant mieux.
Parce qu'on a été quand même, il faut le dire haut et fort, on a été quand même accompagné. Alors même si ça n'a pas couvert tout, on a quand même été pris par la
mer,
on
nous
a permis
de
continuer à exister. C'est vrai que ce PGE, ça peut être une petite bombe à retardement parce qu'il va falloir à un moment donné le rembourser, mais je pense qu'on va pouvoir arriver à l'étaler pour que un maximum de mes collègues restaurateurs puissent s'en sortir et retrouver Voilà,
c'est le cocktail ce Candebord-Rubin. Le verre à moitié plein, c'est Candebord, à moitié vide, c'est Rubin, mais la vérité est entre les deux.
Gardez-en sous le pied, Emmanuel Rubin, parce qu'on continue d'en débattre. On va parler du prix des additions, justement. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, on va vous donner, chers auditeurs, de bonnes adresses de terrasses partout en France. Bon samedi matin, midi, bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire, sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Oui, depuis mercredi, hein, c'est le retour à la vie avec le retour des terrasses. Tiens, Olivier Pouls, on va rappeler quand même les règles. On va profiter de la présence d'Emmanuel Rubin, critique gastronomique du Figaro, et notre camarade Yves Candebord, chef bistronome, et tous nos auditeurs pour rappeler justement les règles en terrasse.
On va le faire pour la forme, hein, parce qu'en réalité, on a déjà pu constater qu'un certain nombre de libertés avaient été largement prises. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Normalement, c'est évidemment uniquement les terrasses ouvertes, le masque pour se déplacer, les clients assis uniquement, 6 personnes par table au maximum, le respect du couvre-feu et des demi-jauges. Alors ça, j'ai rien compris pour les terrasses.
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas que vous qui avez rien compris.
Mais bon, on n'y est pas.
Ah ben c'est clair comme ça.
On n'y est pas du tout. Je voudrais qu'on parle de l'addition. Vous avez dit juste avant la pause, Emmanuel Rubin, attention, on ne sait pas si les Français auront les moyens de retourner au restaurant, s'ils auront envie. Et je sais qu'un de vos chevals de bataille, c'est ça souvent. C'est le prix et c'est notamment ce menu dégustation qui a imposé un prix assez costaud dans certains restaurants.
Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué, je sais bien, et notamment dans les grandes villes, pas simplement Paris, je sais bien que c'est difficile d'arriver à une addition juste pour les restaurants. Ça reste des commerces comme les autres, avec des frais fixes et du salariat qui est difficile à juger. Il n'empêche que si on parle, et moi je le vois, vous savez, quand on fait 30 ans de critique gastronomique, on reçoit énormément, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de courriers. Bien avant la crise du Covid, il y avait déjà un malaise sur l'addition. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochaient de prendre un juste ou un mauvais titre, c'est que c'était trop cher les restaurants. Et déjà, une partie de la société avait déserté le restaurant. Ce qu'on appelle les classes moyennes, elles y allaient de moins en moins. Donc ce qui m'inquiète, et c'est ça qui sera l'après, le monde d'après de la restauration, c'est du côté de septembre, passé l'engouement, les vacances, tout ça. Est-ce que les gens auront véritablement les moyens? Est-ce qu'il n'y aura pas des plis aussi un peu plus sociologiques de prix sur eux? Ils ont appris à aller un peu moins au restaurant, à peut-être aussi voir que lorsque on buvait un verre entre amis chez soi, bah finalement, à un moment donné, certes, ce n'est pas l'énergie du restaurant ou du bar, mais
c'est une
bouteille de vin,
aussi, oui.
C'est quand même 10 fois moins cher. Et ça, j'ai un peu peur.
Le chef bistronome Yves Candebord, inquiet ou pas de cette refréquentation des restaurants?
Inquiet, je vais vous dire non, mais je pense que c'est indéniable qu'il y a eu un avant et il y a eu un après, que les restaurateurs, voilà, il va falloir se remettre en question et peut-être pas considérer qu'on est des artistes, qu'on est simplement des artisans et faire payer le coup de génie du pinceau dans l'assiette.
Faisons payer. On ne mange pas les rideaux, comme vous dites.
Faisons juste payer la matière première, ça sera peut-être suffisant.
Alors, on a une sélection de terrasses pour vous, chers auditeurs. On va faire, vous, tiens, qui êtes le cofondateur du fooding, Emmanuel Rubin. Dans le fooding, il y a une catégorie qui s'appelle les tables d'auteurs. C'est cuisine d'auteurs avec des chefs engagés qui ont un univers derrière la fourche et la fourchette. Une belle terrasse à nous conseiller, tiens, on vous écoute.
Le Cadoret, on est dans le 18e. On est dans cette veine, alors vraiment, c'était alors déjà dans un quartier, vous savez, tous ces arrondissements qui reprennent un peu de vie à Paris. Le décor de peu, un ancien rade gentiment refait, et puis un de ces chefs qui s'amuse avec de la matière première assez simple, des produits pas trop compliqués, mais qui a ce twist, ce génie. Alors justement, il n'est pas dans la cuisine de paysage et de pinceau, mais il va... Ça, c'est vraiment la vertu de la bistronomie originelle. C'est-à-dire, on est dans les codes du bistrot, c'est simple. Il y a de la sonorité, on est au coude à coude, il y a de la bonne ambiance, et le plat, il est simple, avec juste ce qu'il faut de twist.
Olivier.
Alors moi, il y a un chef que j'adore, qui s'appelle Bruno Cirino, que je trouve qui est un génie, et qui a ouvert une table que je n'ai pas encore découverte, mais que j'adorerais aller voir, qui est à Nice, qui s'appelle Racine, où Bruno Cirino se concentre sur les légumes. Ce n'est pas un restaurant végétarien ni vegan, mais une cuisine de légumes, et j'adore ce chef.
Yves, une terrasse.
Allez, Mont-Louis-sur-Loire, un village, une région, un lieu, Le Berlot, petite terrasse. Hervé Chardonneau, grand cuisinier, une cuisine d'authenticité, de valeur et de plaisir.
Catégorie, tiens, adresse secrète aussi, hein, votre adresse de cœur.
Alors celui-là, il est tellement secret qu'il n'est pas encore ouvert, il ouvre ce week-end. On est du côté de la rue de l'Arbre Sec, ça c'est à Paris, en plein cœur des Halles. C'est un chef dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'il est dans Top Chef, il s'appelle Mathias Marc, et il s'amuse, on va voir ce que ça donne, à réinventer la taverne, l'esprit de la taverne.
Ah, bien.
Vous savez, il ne faut pas oublier que les restaurants sont des genres. Alors il y a le bistrot, il y a le bouchon, il y a le grand restaurant, il y a le café de la gare. Et la taverne, on l'avait un peu oublié, ça c'est code. Il va essayer de faire ça avec une cuisine là encore. encore un peu amélioré, en plein cœur des Halles. J'aimerais bien y aller.
Adresse secrète d'Olivier Poulx.
Je vous emmène dans le vignoble et je vous emmène du côté de Bandol, dans le domaine de Terrebrune, qui est un magnifique domaine. Les vins sont délicieux, mais il y a aussi une petite table d'hôtes et une terrasse. Et vous êtes au cœur du vignoble, d'un vignoble somptueux. Là, vous êtes très
avec
bien.
Une ouverture vers la mer, en plus, au loin. C'est magnifique. Yves Candebord.
Un village dans le Vaucluse, Mérendol. Et il y a la Bastide du Grand Tilleul qui est tenue par Aurélien et Emmanuel, deux personnes qui aiment les gens. Et pour moi, c'est la chose la plus importante quand on est restaurateur, c'est aimer les gens. On est dans une terrasse ombragée sous un énorme tilleul. C'est simple, c'est bien fait. Et en plus, ils ont une très belle sélection de vins de la région.
Et ben voilà, et moi je termine par la terrasse d'Anecdote, le restaurant d'Alexandre Gauthier à Montreuil-sur-Mer. Ceviche de maquereau, une belle côte de bœuf, un merlan en croûte de pain. Voilà, il y a de belles choses. Donc retournons au restaurant en fonction de nos envies, de nos budgets et de nos moyens, bien entendu. Merci Emmanuel Rubin.
C'est moi, vraiment.
Pour cet éclairage, le Figaroscope reparaît la première semaine de juin. Et le dossier, eh bien c'est le suivant. Les 50 adresses qui vous ont le plus manqué, c'est ça?
Exactement.
Et ben voilà, le Figaro avec Emmanuel Rubin. Ne bougez pas, tout de suite un épicurieux qu'on aime tous, c'est Jamy Gourmaud, il est notre invité. Alors, Gourmaud est-il gourmand? Réponse juste après ça. C'était Olysses sur Europe 1. Cécile Cassel pour les intimes. Oh, les jolis bruits de bouchons, Olivier Poulx, c'est dans les parages. Eh bien, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Un poisson grillé entre copains, une tête de veau au resto. Pour lui, être un bon vivant, c'est pas sorcier. Épicurieux, il aime transmettre comme on aime donner une astuce de cuisson en cuisine. Vous le retrouvez hein, tous les jours à 16h55 sur France 5 et puis sur sa chaîne YouTube. C'est Jamy, notre invité, Jamy Gourmaud. Bonjour Jamy.
Bonjour,
pas
bonjour
Jamy,
à tous.
Jamy,
on dit Jamy.
Il y avait Super Jamy, ça c'est autre chose, et il y a Super Jamy aujourd'hui.
Mais je lutte.
Vous avez raison. Vous allez bien Jamy?
Très très bien.
On est ravis de vous recevoir parce que vous êtes quelqu'un de curieux et de pédagogue à la fois, et c'est ce qu'on aime chez vous, ça.
Et je suis très content d'être ici parce que je suis curieux, curieux un peu de tout, mais en particulier pour la cuisine.
Et ben, voilà.
J'adore les expériences culinaires. Voilà.
Vous cuisinez régulièrement, hein ?
Oui, ça fait partie de mes passe-temps favoris. Ça fait partie des moments où j'arrive à tout oublier. Il y a deux choses qui me font oublier un petit peu le stress du quotidien. C'est cuisiner et mon jardin.
Mais on est dans des bulles à chaque fois. Hein.
Exactement.
C'est une bulle qui nous protège et qui nous fait du bien. On parlait de la réouverture des restaurants et des terrasses tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion d'y retourner en terrasse?
Alors, malheureusement, là, je sors de tournage et quand je tourne, eh bien, je mène une vie d'asset. Mais je vais me rattraper ce week-end.
Vous irez où alors?
Alors, il se trouve que ce week-end, je suis en Vendée, dans ma famille. Et donc, je vais probablement passer du temps sur les terrasses de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Ah, vous allez manger des sardines?
Je vais manger. Alors, les sardines, c'est peut-être pas encore la saison, mais on m'a dit qu'il y avait quelques homards qui traînaient dans les casiers.
Les homards, c'est la saison et ils sont meilleurs marchés qu'à Noël, parce
Exactement.
Que c'est maintenant la
pleine
saison.
La saison des homards, des langoustines.
Mais attention, des homards, il n'y en a pas beaucoup parce que la petite guéguerre entre les pêcheurs anglais et les pêcheurs français provoque une légère pénurie, m'a-t-on dit, de homards en France en ce moment.
Eh bien, j'irai constater ça.
Oui, et je pense qu'il faut aller investiguer au plus près.
Cet après-midi.
Jamy Gourmaud, quel est votre goût de la semaine?
Moi, j'aime beaucoup le poisson et j'aime consommer le poisson en fonction des saisons. Alors en ce moment, il y a pas mal, on a parlé du homard, des langoustines, il y a de la dorade, mais il y a un poisson que j'adore, c'est la barbue.
Très joli poisson.
Poisson plat magnifique.
Oui. Alors on dit souvent le turbo, la barbue est plus accessible.
Bien sûr.
Et c'est un poisson qui a une chair, je trouve, extraordinaire, qui est d'une simplicité à cuisiner. Alors moi, je fais confiance quand c'est comme ça à mon poissonnier. Lui, il me dit 18 minutes 180 degrés au four avec simplement un filet d'huile d'olive.
Mais il a bien raison, parce que quand on a la chance d'avoir des produits d'exception, je dirais toujours le cuisinier, la main du cuisinier est simplement au service du produit et il faut se laisser le produit faire sa vie.
Comme dirait Alain Ducasse, qui a fait une barbue il n'y a pas longtemps et qui était à votre place, le juste assaisonnement, la juste cuisson. Voilà, c'est ce qu'il dit à propos
de ça. Une minute de cuisson par 100 grammes, c'est un bon moyen mémotechnique pour le retenir dans un four à 180 degrés.
Pensez à cuisiner la barbue, chers auditeurs. C'est la saison aussi des légumes verts, les asperges, les petits pois, les fèves, les pois gourmands sont en train de débarquer. Et chaque année, Yves Candebande, on se demande comment les chefs font pour garder les légumes verts vraiment verts. C'est une question vraiment qu'aurait pu se poser Jamy, je pense.
Ah, je pense qu'il aurait pu se la poser et peut-être donner aussi la réponse de façon scientifique. Oui. Mais moi, je suis cuisinier et je suis au service du produit et surtout au service du goût. Alors, on va faire les choses très simples. Il y a quelques critères vraiment précis à respecter. Le premier, c'est déjà avoir des légumes d'une belle qualité, d'une fraîcheur, qu'on va tremper dans une eau glacée. Voilà. On va les mettre carrément dans un saladier d'eau glacée.
D'abord. Avant de les cuire.
Avant de les cuire. Vous faites bouillir une casserole d'eau. Il faut prendre une casserole d'eau assez large. Pour, je vais vous dire, pour un kilo de légumes, il vous faut pratiquement 3 litres d'eau.
Ah oui,
il
faut qu'ils aient de la place, quoi.
Pour qu'ils aient de la place. Après, on va saler, très important, parce que le sel, justement, va fixer la couleur. On va saler à 10 grammes de sel au litre. Quand votre eau est à ébullition, vous égouttez vos légumes et vous réalisez ce fameux choc thermique qui va fixer la chlorophylle.
Jamy, ça vous parle ?
Ah ben, ça me parle. Alors, j'essaie de suivre cet exemple, Yves. Alors, certains disent qu'il faut rajouter une pincée de bicarbonate de soude.
Alors, si vous faites vraiment le choc thermique, comme je vous le dis, il n'y a pas besoin de bicarbonate de soude. Et ce n'est pas fini.
Au bouillon de salé. Hein.
Au bouillon de salé. On met les légumes quand ça bout. Surtout, surtout, ne pas couvrir. Ah oui. Si vous couvrez sous prétexte que vous voulez gagner du temps pour que l'ébullition soit plus rapide, vous allez complètement retirer la couleur des
oui,
légumes.
Oui, parce que la vapeur va retomber, voilà, elle va les rendre caquines aux légumes. Ouais, ouais.
Donc, une fois que vos légumes sont cuits, vous les prenez, vous les égouttez et vous les retrempez à nouveau dans votre bain d'eau glacée.
D'accord.
Vous allez, là, vous allez avoir le choc thermique pour les refroidir très rapidement.
On ne les laisse pas longtemps, là. Hein.
Attends, exactement, là, vous avez complètement raison. On ne les laisse pas longtemps parce que c'est de l'eau, on n'a pas envie de les laver, on n'a pas envie de prendre le goût. Là, on va les égoutter et on les laisse égoutter. L'eau de cuisson, on ne la jette pas. On la conserve.
Il boit vos paroles, Jamy Gourmaud. Hein.
Totalement. Je bois l'eau de cuisson et les paroles.
Vous en prenez un litre, que vous mettez à votre réfrigérateur. Les 2 litres qui vous restent, vous pouvez les utiliser pour cuire un riz, pour cuire des pâtes, pour les mettre dans un bouillon. On va mettre donc 1 litre au réfrigérateur quand il est bien glacé. On va prendre de l'oseille. On va prendre de l'oseille. Vous prenez l'oseille. Vous la mettez dans carrément une botte d'oseille dans 1 litre d'eau. Vous rajoutez une pomme Granny Smith, pas épluchée.
La pomme verte fluo, là, oui.
Pomme verte fluo et acide. Vous la coupez en morceaux. Et là, vous prenez un mixeur plongeur, de haut en bas.
On mixe.
Vous mixez. Et là, c'est
une
magie.
C'est un bouillon.
C'est un bouillon. C'est un jus.
Ouais.
C'est un jus. Et il est vert fluo. Parce que le fait de mixer l'oseille dans de l'eau glacée, elle conserve sa couleur.
Et ça émulsionne.
Elle amène de l'acidité. Elle amène l'acidité. Ça émulsionne. Et en plus, on va gagner un peu de rondeur avec la Granny Smith, mais en gardant l'acidité.
Et on mélange ce bouillon avec les légumes que vous avez retirés juste avant.
Hein, vous prenez vos légumes, vous les mettez dans l'assiette creuse.
Vous avez suivi,
un petit trait d'huile d'olive dessus. On verse le bouillon et on a un plat, mais d'une beauté. C'est vert.
La couleur de l'espoir. La couleur de l'espoir.
La couleur de l'espoir. La couleur du bonheur.
J'essaie dès ce week-end et je vous envoie la photo.
C'est immanquable.
Avec plaisir. On la mettra sur le groupe Facebook des bons vivants.
Est-ce que je peux poser une question?
Bien sûr.
Parce que là, vous refroidissez les légumes glacés, mais est-ce que vous les consommez immédiatement après ou est-ce qu'après, on a la possibilité de les repasser dans le bouillon pour les faire réchauffer pour...
Si vous ne les consommez pas de suite, vous les glacez complètement, vous les égouttez. Parce que le fait de les égoutter, on va bien fixer le verre. Et après, un peu d'huile d'olive, si vous voulez les faire tiède, juste les sauter à l'huile d'olive ou avec une petite noix de beurre demi-sel, vous pouvez les réchauffer.
D'accord.
Mais et on ne les couvre pas, même quand on les fait réchauffer.
On est bien d'accord.
C'est important.
Voilà, il ne faut pas qu'ils fripent.
Voilà. Et bien voilà, vous voyez, on en apprend tous les jours en cuisine. C'est ça qui est formidable. Ne bougez pas, on revient après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. Et on revient, Jamy Gourmaud, vous qui aimez les produits de la mer, et bien on revient avec un plat tentaculaire. À tout de suite, les amis. Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être là si vous êtes avec nous depuis 11h. Si vous avez raté le début, vous le retrouverez en écoutant le podcast sur europe1.fr. On a parlé du goël. Nous sommes avec Jamy Gourmaud qui est notre invité et on vous a mis du goël. Tiens, Jamy, on va dire que c'est une sorte de fromage blanc fermenté. Vous n'avez pas eu l'occasion de goûter. Tiens, on va le faire en direct. On était sur la presqu'île de Ruisse au début de l'émission avec Gurvan Bourvelec qui, avec ses belles vaches pinoires, fait ce joli... Gouel. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, le gros lait en Bretagne.
Moi, j'aime ça.
C'est fermenté, hein. Ah oui, c'est bon.
Simplement.
Ça.
C'est bon goût.
C'est bon. C'est bon. Oui, il a bon goût, absolument. Absolument. Allez, on a parlé des adresses, hein, de terrasses dans toute la France. Vous retrouverez ces belles adresses sur europe1.fr. Jamy, on vous retrouve tous les jours à 16h55 sur France 5. Alors, dans votre émission, vous nous racontez aussi bien l'histoire de Jeanne d'Arc qu'en même temps une machine à pain qui nous permet de recycler les restes pour faire de la farine de pain.
Hein. Voilà, c'est
dans
très
la même émission, c'est fort.
Absolument,
ça.
Absolument. Mais c'est ce qui est intéressant, moi. La connaissance, j'aime la picorer. Et il ne faut pas faire trop long sur tel ou tel sujet. La rendre accessible et y prendre du plaisir. Donc, bah voilà, hein, effectivement, on passe de Jeanne d'Arc au pont de Normandie à une foule de sujets. Et on va en tirer la substantifique moelle.
Comme disait Rabelais. Ouais. Ça vous vient d'où cet amour, là, justement, de vulgariser comme ça, cette curiosité que vous rendez effectivement accessible à tous?
Je crois que j'aime raconter. À l'origine, je suis journaliste. Et quand j'ai commencé à bosser, eh bien, je me suis retrouvé à bosser pour des journaux de science, une émission de science. Et je me suis dit, mais voilà un terrain extraordinaire pour raconter des histoires. Parce que chaque fois que vous décrivez une réaction chimique, c'est théâtral. Vous avez des protagonistes et puis il se passe quelque chose, bien ou mal, et puis il y a une réaction et à la fin, ça ne ressemble pas à ce qu'il y avait au départ.
Depuis C'est pas sorcier jusqu'à aujourd'hui, Jamy, les questions qu'on se pose sur notre alimentation sont les mêmes, vous diriez ?
À l'origine, on parlait plus des apports nutritifs de notre alimentation. Et aujourd'hui, eh bien, on a franchi un autre pas. On parle toujours des apports de nos aliments, mais également de la manière dont ils ont été produits. Il y a vraiment un intérêt pour savoir comment sont produits nos aliments.
Alors, chers amis, ça y est, c'est l'heure du plat du jour. On vous en parlait d'un joli poulpe, un plat tentaculaire. C'est un plat signé par les Enfants du Marché à Paris, dans le 3e arrondissement. À la tête de ce comptoir situé au Marché des Enfants Rouges, qui est le plus vieux marché parisien, eh bien, il y a Michael Grossman et Masa Ikuta, qui est un chef japonais. Le fil de conducteur de leur cuisine, vous le connaissez, Yves Candebord.
Oui, hein, c'est un travail entre les produits de la terre et de la mer.
Exactement.
Et surtout un travail avec, je pense, une accessibilité aussi au plus grand nombre, justement en restant sur le produit, en mettant juste leur touche de personnalité, mais avec beaucoup de sobriété. Voilà. On retrouve le produit avant tout.
Exactement, c'est une adresse qu'on avait juste évoquée ici. On voulait vraiment vous faire profiter du joli plat du jour. Et c'est Michael Grossman, le restaurateur, qui vous présente le plat.
Poulpe de Galice, crème de piquillos, sauce chimichurri et épinards. Le poulpe de Galice qu'on fait d'abord cuire dans un bouillon avec plein d'aromates pendant environ 4 heures. Le petit secret, c'est le bicarbonate de soude dans le bouillon pour détendre un peu les fibres. Ensuite, on va le snacker sur une plancha très vive pour obtenir la croustillance. Juste là, vous avez la crème de piquillos. Piquillos en beaucoup, mais après, il y a du vin blanc, il y a du piment d'Espelette, il y a des ingrédients un peu mystères qu'on va taire, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de venir au resto, tout simplement.
Et ben voilà, il garde secret, effectivement, les ingrédients de cette sauce piquillos. Mais on peut la refaire, cette sauce piquillos, avec des petits piquillos qu'on achète en bocaux et qu'on va mixer tout simplement avec un petit peu de vinaigre. Alors, pour tout vous dire, Jamy et chers auditeurs...
Il est allé jusqu'au bout, il a tout gardé en secret, c'est ça.
Alors voilà, exactement, j'explique pourquoi vous dites ça. Parce que, normalement, vous le savez, vous connaissez l'émission, on fait déguster à nos invités le plat du jour à cette heure-ci.
C'est ce qu'on lui avait vendu pour le convaincre de venir, d'ailleurs.
C'est ce qu'on lui avait vendu pour lui convaincre de venir. On a envoyé un coursier... parce que moi, j'ai dégusté ce plat hier. On a envoyé un coursier juste avant l'émission pour aller récupérer ce plat. Je vous promets que c'est vrai. Le coursier a bien récupéré le plat aux Enfants du Marché et il ne nous l'a jamais livré.
Non, parce que Laurent, trop bon. Il est parti rue François Ier.
Je ne sais pas où il est, mais non, on est rue des Cévennes maintenant, dans le 15e.
Non, mais il le mange.
Mais voilà, c'est un poulpe. Moi, je l'ai dégusté hier avec mon équipe, Lucie Lescourou et Julien Matt. C'est un poulpe qui est fondant avec cette sauce qui est bien vinaigrée, acide avec le piquillos. Il y avait même des petites pommes de terre de Noirmoutier. Juste rôti. Ce que je voudrais qu'on explique à nos auditeurs, c'est la cuisson du poulpe, parce que c'est très technique.
C'est très technique, c'est très délicat. Donc, il a expliqué un court bouillon, donc bien épicé. On peut mettre un peu les épices qu'on a envie, avec une belle garniture aromatique, c'est-à-dire carottes, oignons, poireaux, céleri. On le fait bouillir, mais on le fait bouillir vraiment à toute petite ébullition. Il ne faut vraiment pas le froisser, tout doucement, 4 heures.
Alors, oui, vous faut le piquez, du temps.
Alors peut-être qu'il faut 3h30 ou 4h30,
ça dépend
un peu de la taille du poulpe. Mais quand vous le piquez, que vous sentez qu'il n'y a pas de résistance, et surtout, vous le sortez de l'élément de cuisson et on le laisse refroidir dans le bouillon. Ne l'enlevez pas du bouillon parce que là, obligatoirement, il va se stresser, il va se serrer et il y aura un croquant qui ne sera pas agréable. Alors, le poulpe, c'est une justesse entre du moelleux et du croquant. C'est délicat, mais c'est tellement bon.
Alors, il vous plaît, Jamy, ce poulpe ?
Ah ben, écoutez, j'aime aussi le poulpe. Alors, le poulpe, pieuvre ou même margate, hein, les sèches, on peut faire des choses extraordinaires. Et j'adore, moi, d'ailleurs, l'été, les calamars à la plancha, ça fait partie de mes favoris de l'été.
On aime ces textures. Alors, chers auditeurs parisiens, si vous voyez un coursier arrêté avec, sur le top caisse, une jolie boîte en carton avec un poulpe et une sauce piquillos, c'est le nôtre, voilà, justement. Et oui,
vous remarquerez que moi, j'ai tenu mes promesses parce que j'avais promis un vin pour l'évêque et je l'ai apporté. Alors, à défaut de poulpe, on va quand même boire le vin. Je vous apportais un bandol rosé du domaine Tempier, un bandol de caractère. Et moi, j'avais envie de Méditerranée, j'avais envie de soleil, j'avais envie d'un rosé qui est un peu de mâche pour aller avec ce poulpe et ses piquillos.
Olivier,
on l'imagine.
On va prendre le train.
Et, ouais. Et comme vous tenez vos paroles, eh bien on revient dans un instant avec les deux minutes du vin d'Olivier Pouls et avec notre invité Jamy Gourmaud. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il a fini son assiette. Le bon vivant Jamy Gourmaud est avec nous. Sur France 5, Jamy, et sur votre chaîne YouTube, vous nous apprenez sans cesse des choses. En cuisine aussi, c'est important la transmission. On peut dire que vous avez été à bonne école avec vos grands-parents paysans. Hein.
Oui, absolument. Avec mes grands-parents qui étaient agriculteurs, aussi beaucoup d'oncles et de tantes qui ont poursuivi dans cette voie, dans le bocage vendéen. Donc, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'adorais aller y passer des vacances. Vous savez, des fermes vraiment à taille humaine. Ah la ferme de mon grand-père, c'était 17 hectares.
Voilà. Et on vivait avec 17 hectares, une famille entière.
Alors, complètement, mais il faut se remettre dans les conditions. Moi, je me souviens de la maison de mes grands-parents, la première qu'ils ont eue. J'étais tout enfant avant qu'ils fassent des travaux. On rentrait, il y avait un couloir à droite. On entrait dans la cuisine, il y avait la cheminée, et il y avait le lit de mes grands-parents à gauche. Il y avait une autre chambre dans laquelle dormaient ma maman et puis tous ses frères et sœurs. Donc, c'était quand même des conditions très rustiques et il ne faut pas forcément avoir envie de revenir à ce temps-là. En revanche, il y a sûrement, et vous le savez Yves, vous le revendiquez, il y a sûrement beaucoup à faire pour retrouver des saveurs qui étaient obtenues grâce à leur travail, au temps qu'ils y passaient.
Et au respect de la saison, effectivement. Oui, et puis c'était de la polyculture, il y avait de la céréale, du pâturage, on faisait du lait, voilà, il y en avait plusieurs mamelles, si je puis dire. Voilà. Quels sont vos plats fétiches en cuisine, Jamy Gourmaud ?
On va dire quand même qu'il y en a un qui est au-dessus de tous les autres. Voilà. Mon plat fétiche, il y a un truc que j'adore, si je le trouve sur une carte, je m'arrête, je ne vais pas plus loin, c'est la tête de veau.
Ah
voilà. Oui,
on n'en trouve pas facilement.
Non.
Roulée ou entière ? Parce qu'attention, il y a plusieurs écoles.
Évidemment, si je la trouve entière, de préférence entière, bien évidemment. Quand on vous sert la tête de veau avec les différents morceaux répartis dans l'assiette et que vous pouvez jongler avec votre fourchette d'une texture à une autre, là, c'est merveilleux.
Et là, vous êtes dans l'actualité parce que c'est le veau de Pentecôte qui débarque sur de nombreuses tables ce week-end partout en France. Donc, effectivement, c'est une viande savoureuse, fondante, qui a du goût, le veau, Yves Condebord.
Oui, c'est une des viandes blanches qui est peut-être la plus soyeuse, qui est vraiment une belle émotion. Mais moi, je reviens sur la tête de veau. La tête de veau, c'est quand même un des plats emblématiques de la cuisine gastronomique française à la base. Alors maintenant, elle est très bistrotière. Mais c'est vrai que ces différentes textures, cette façon de la préparer quand on la rôtit carrément, pratiquement, après l'avoir pochée entière, c'est merveilleux. J'ai des souvenirs, Jean-Pierre Vigato, à la Pyxus, arrivé avec une tête de veau sur un plateau en argent. Là, vous faites...
Respect, maître.
C'est l'heure des deux minutes du vin, Jamy Gourmaud. Est-ce que vous êtes amateur de vin ?
Alors, je suis amateur, mais il se trouve que j'ai autour de moi pas mal d'amis qui le sont davantage que moi. Donc, en général, je reste silencieux, mais je prends un plaisir immense à les entendre parler du vin. En général, je me tais, je les écoute, je les regarde essayer de déterminer l'origine d'un vin. Et ça, c'est un bonheur.
C'est ce qu'on fait avec Olivier.
Voilà. Exactement, on se tait, on l'écoute. Alors justement, cher Olivier, il y a quelques jours, moi, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge. Il était pétillant comme du champagne, ce vin rouge, et pourtant... C'était pas un vin nature et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus régulièrement, ça, cette effervescence avec des vins qu'on appellerait des vins tranquilles.
Alors, tout d'abord, Jamy, une petite explication scientifique, évidemment. Alors, j'ai pas de camion, mais je peux quand même vous la faire. Alors, lorsque le jus de raisin devient du vin, le sucre se transforme en alcool sous l'effet de levure. En matière de physique et de chimie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Vous connaissez ce principe. Et dans cette transformation, il y a ce qu'on appelle une libération de CO2 ou de gaz carbonique qui va rentrer dans le vin. La grande majorité de ce gaz carbonique s'en va dans l'atmosphère, il sort des cuves. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très dangereux de rentrer dans une cave pendant les fermentations parce que on peut être asphyxié.
Absolument.
Il y a des morts.
On est empoisonné, absolument.
Mais une partie de ce CO2 reste dans le vin. Normalement, le vigneron l'enlève, il dégaze le vin. Mais il aime aussi le garder parce que le CO2 a un intérêt, c'est qu'il est protecteur, il est antioxydant. Et donc ça permet de baisser les doses de soufre, y compris dans des vins qui ne sont pas des vins nature.
Vous faites bien le dire, parce que moi, ce n'était pas un vin sans soufre. Hein.
Non, alors c'est vrai que les vins sans soufre sont généralement un peu gazeux, hein, mais en ce qui concerne les vins plus classiques, il y a une tendance à vouloir baisser globalement les taux de soufre et donc à laisser un petit peu plus de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous inégaux par rapport à la perception qu'on a du gaz. On a des seuils différents. Et il y en a qui vont percevoir le gaz alors qu'il y en a à peine et d'autres qui seront un petit peu plus dérangés.
Alors, je fais quoi quand j'ai une bouteille qui pétille et que je voulais pas qu'elle pétille ?
Bon, alors, pas de panique. Vous pouvez l'enlever vous-même. Première solution la plus pratique, vous prenez une grande carafe bien évasée, vous versez votre vin d'une certaine hauteur de manière à ce qu'il s'aère et que le gaz carbonique sorte, hein, c'est comme une bouteille d'eau dans laquelle il y a du gaz, ou alors vous faites une technique un petit peu plus rustique, un petit peu plus barbare, franchement ça marche très bien, vous la secouez comme un shaker et vous dégazez le vin. Ce sont en général des vins jeunes qui sont gazeux puisque le temps va faire en sorte que le gaz va être absorbé par le vin, donc dans des vieux vins il n'y en a plus. Donc secouer un vin jeune c'est pas très grave. Vous le secouez un peu et pof, le gars s'en va.
L'information du jour quand même, de ce week-end, on peut secouer le vin, Jamy Gourmaud.
Et c'est passionnant. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est, on parlait du goût il y a quelques instants, mais je trouve que quand on pige ce qui se passe au niveau d'un grain de raisin, quand il est cueilli et qu'il commence à fermenter et puis que l'on va on va plonger dans une cuve pour voir ce qui s'y passe d'un point de vue microscopique, je trouve qu'on en apprécie d'autant plus la qualité et les arômes et le goût du vin.
Il n'y a pas de doute, c'est bien le Jamy Gourmaud officiel que nous avons avec nous. Il est curieux, il s'intéresse à tout. On le retrouve sur sa chaîne YouTube et dans C'est Jamy tous les soirs à 16h55 sur France 5. Vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi, Jamy.
Avec plaisir.
Et on revient avec le grill des bons vivants dans un instant. Et cher Olivier, on retrouve vos conseils aussi dans la revue du vin de France, bien entendu. A tout de suite, les amis.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de cette belle tablée avec Jamy Gourmaud jusqu'à midi et demi. Jamy, on fête donc la réouverture des restaurants depuis mercredi. On se rend compte qu'ils font vraiment partie de notre culture. La parole se libère, hein, je disais. Vous avez le souvenir, vous, de grandes discussions à table au restaurant ?
À plein. Plein. Alors évidemment, il y a quelques souvenirs qui sont un petit peu au-dessus des autres. Je me souviens d'un déjeuner mémorable. C'était au Véfour, chez Guy Martin, c'était en pleine semaine. Et parmi les convives, il y avait Michel Serres. Voilà, on était quatre autour de la table, dont Michel Serres. Et je me souviens d'un déjeuner extraordinaire. On a terminé en chantant. Michel Serres
chantait. Grand philosophe.
C'était il y a quelques années, hein. C'était il n'y a pas très longtemps. Bon, malheureusement, il n'est plus là. Mais je garde cette image de ce personnage qui était truculent, joyeux, qui aimait bien sûr la sociologie, la philosophie, mais aussi la bonne chère, la table, le vin, le rugby, un ancien joueur de rugby. On a passé un déjeuner fabuleux.
Et Michel Serres disait souvent qu'il fallait qu'on valorise notre agriculteur, notre paysan qui était notre père nourricier, il disait. Il faut qu'ils soient payés à leur juste valeur, il faut qu'on les paye pour l'entretien qu'ils font de nos jolis paysages. Et il y avait un truc qui le rendait dingue, Michel Serres, c'est que quand on est agriculteur et qu'on veut se convertir en bio, eh ben on doit payer et que certains pollueurs qui polluent, eux ne payent pas. Il disait c'est quand même dingue qu'on doive payer pour faire de la qualité, pour faire quelque chose entre guillemets d'éthique et que quand on pollue, eh bien on ne paye pas.
Avec des expériences qui voient le jour assez intéressante puisque l'on sait que lorsqu'un agriculteur passe en bio, eh bien pendant quelques années, il a une surcharge dans son travail et puis moins de production. Donc évidemment, ses rendements baissent un peu, ses revenus baissent. Eh bien aujourd'hui, il y a des gens qui essaient d'organiser la vente de ces produits intermédiaires, disons, entre le produit conventionnel et le produit bio. Et ça, c'est vachement intéressant parce que justement, ça peut être le petit coup de pouce qu'il faut pour que justement des agriculteurs qui hésitaient puissent...
Exactement.
y passer.
On vous retrouve tous les jours dans C'est Jamy sur France 5 à 16h55. Hein, c'est votre nouveau rendez-vous. Vous préparez d'ailleurs une nouvelle émission sur l'alimentation. On sent que c'est un sujet qui est important pour vous.
Hein. Oui, tout à fait. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens fabuleux, je ne sais pas, peut-être Yves, vous connaissez Jean-Luc Garbage.
Oui, très très bien.
Voilà,
un personnage succulent et qui nous fait des produits
maraîchers
exceptionnels.
Extraordinaire. Je tournais chez lui il y a moins d'un mois dans ses serres. On a passé 3 jours ensemble. Mais c'était merveilleux. On a arraché les carottes, là. Ces carottes qui font une quinzaine de centimètres. On les croque comme ça. C'est un goût merveilleux. Je suis reparti avec, évidemment, quelques provisions.
Ben oui.
Mais alors, vous prenez ces carottes à lui, vous avez l'impression de... Quand la lame s'enfonce dans la chair, vous avez l'impression de couper du beurre.
C'est ça, c'est tendre et fondant à la fois. Et puis c'est les légumes nouveaux aussi qui sont déjà par nature plus fondants. Jamy Gourmaud, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Et ça va chauffer. Quel est le goût de votre enfance, cher Jamy?
Ah, j'en ai plusieurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma passion pour la tête de veau. Il y a un goût, je me souviens, ma grand-mère me faisait de la cervelle. Elle faisait ça à mon frère et à moi, elle me faisait de la cervelle. Alors elle faisait un beurre roux. Et puis, elle rajoutait du citron, bien sûr, et quelques capres.
Ah, alors là, c'est le mariage parfait.
Ça, c'est rare quand même que les enfants, la cervelle citron-capre...
Oui. Je vous promets...
Parce que l'acidité fait peur aux enfants.
J'ai fait la même chose avec mes enfants. Moi, mes enfants ont mangé de la cervelle à 3 ans.
Oui, voilà, c'est l'éducation.
Eh bien, aujourd'hui,
ils
s'en régalent. Moi, quand on me raconte que les enfants n'aiment pas les légumes...
Mais c'est pas tellement...
Je ne comprends pas.
Là, c'est pas tellement pour le goût.
C'est un côté psychologique, quand même, avec la cervelle.
Psychologique, certes. Et puis la texture, c'est une texture crémeuse.
Il faut commencer tôt. Comme ça, on n'a pas trop les repères. Quand on commence tôt, on n'a pas trop les références, en fait. Le premier plat que vous avez cuisiné, Jamy?
Alors, sûrement un œuf.
Ben oui.
Voilà. Mais la première fois que j'ai voulu cuisiner quelque chose d'un peu plus compliqué, je pense que c'était des magrets. Voilà.
Votre plus beau repas, Jamy Gourmaud?
Alors, un repas, il y a plusieurs choses qui font un beau repas. Il y a évidemment ce qu'il y a dans l'assiette, il y a l'endroit, et puis il y a les convives. Donc, je pense que mon plus beau repas, c'est le jour où, la première fois que j'ai invité mon épouse au restaurant.
Oh, il est romantique, Jamy.
Voilà.
Votre pire repas?
Alors, je pourrais vous dire, un des pires repas que j'ai passé il n'y a pas longtemps, là, je rentre du Nicaragua, j'étais sur un volcan, le Masaya, qui est un volcan en activité, il y a un lac de lave, il y a quelques volcans comme ceci sur la planète. Quand on passe 2 jours dans le volcan, c'est un milieu, j'ai jamais rencontré de milieu plus hostile, et manger sur un caillou, un casse-dalle qui date de la veille, je pense que ça... C'est l'un des pires repas.
Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte?
J'emmènerais un plateau de fromage.
Un concentré de la France, quoi.
Complètement, complètement. Et du fromage, parce que je me dis, si je dois y rester un peu plus longtemps que prévu, le fromage, ça se garde et ça se bonifie.
Votre bande originale pour cuisiner, Jamy Gourmaud?
Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais j'écoute pas de musique quand je cuisine. Le son de la cuisine... Mais suffit.
Mais de nombreux invités répondent comme vous, effectivement, on aime aussi ces 5 sens reconnectés.
Je pense que la cuisine, elle monopolise tous nos sens. Hein. On parle de la vue, l'odorat, mais l'oreille aussi. Le simple filet d'eau quand vous nettoyez des légumes, voilà, ça commence. Et puis quand ça commence à frétiller dans la poêle, voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Il y a des personnages qui me tenteraient. J'adorerais. Alors, j'aurais adoré déjeuner avec Jules Verne. Malheureusement, c'est un peu trop tard. Mais je ne sais pas, quelqu'un comme Lucchini, comme Alain Souchon, par exemple. Je crois que toutes ces personnes qui jonglent avec les mots sont intéressantes autour de la table parce qu'on a la chance d'avoir une langue extrêmement riche et une cuisine extrêmement riche. Et les mots de la cuisine sont merveilleux. Donc, déjeuner avec des gens qui sauraient en parler de manière originale ou à leur façon, avec leurs souvenirs, voilà, je pense que c'est du plaisir.
Et pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
Je vais citer un philosophe et sociologue, Théodore Zeldin, anglais, mais francophile, qui dit « La gourmandise, c'est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur ».
Ah, c'est bien dit. Ah bah oui, ça pourrait être notre maxime, hein, Yves Cordebord.
C'est très joliment dit.
Merci Jamy Gourmaud d'être passé à la table des bons vivants.
Olivier, merci Yves, merci beaucoup.
Et on vous retrouve tous les jours à 16h55 sur France 5 dans C'est Jamy. Voilà, merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Rendez-vous sur europe1.fr, vous le savez, pour retrouver les recettes, nos bonnes adresses de terrasse et puis pour retrouver le podcast, hein, vous pouvez réécouter l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec la chef Anne-Sophie Pic. On aura quelques idées pour préparer la fête des mères. Bon week-end, profitez des terrasses, respectez les gestes barrières. Attention, on n'en est pas complètement sorti de cette histoire. Et puis faites le marché et la cuisine. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1.